Le Poil, chanson réaliste. Paroles Jean-René Cotimon, musique Michel Taupin. Musique. Chanson engagée. Ça s'est emmerdé. C'était un jour de beau temps. Dieu était de bonne humeur. Il avait créé la femme nue. Quelle grossière erreur. Voyant ses fruits fragiles à la merci des chacals, il eut une idée lumineuse. Le Poil.
Au départ sur terre c'était Byzance. Tout le monde m'a brossé dans mon sens. D'argent rentré dans la touffe. J'ai donc coté mes poils en bourse. Puis j'ai connu Marie Chantal. Elle avait la bouche en cul de poil. On s'est quitté un poil de l'épouser. Le jour où elle a voulu décolorer toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rate, ça me barre, ça me pile. Je suis l'ennemi public. Seule vie qu'on torture en rasoir bique. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rase, ça me barre, ça me pile. Dans un monde aseptique, c'est, je suis politiquement incorrect. Un jour je suis passé de mode, quel supplice. J'ai eu des démêlés de justice. Je rasais les murs, j'étais clandestin. Craqué dans les moindres recoins. Coin-coin, je voulais pas finir comme fourniture. Pour perruque ou brosse à chaussures. Par charter, j'ai fui le capitalisme. En Afrique où j'ai eu poiludisme. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rase, ça me barbe, ça me rempile. Je suis l'ennemi public. Celui qu'on torture au rasoir bique. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rase, ça me barbe, ça me rempile. Dans un monde aseptique, je suis politiquement incorrect. Trop malade, j'ai dû partir. Hey, on aurait dit un poil à frire. Mais j'ai trouvé mon bonheur, c'est le principal. Dans une communauté au Népal, j'ai fondé mon paradis fiscal. Sur une baba coulant sandales. Mais avis à tous les crânes d'œufs, je serai de retour. En 2069, poil aux dents.
Et voilà, donc nous amorçons la 285e édition des Petits Tas dans le Mou sur Radio Canu, la plus belle des radios, avec cette chanson bien connue de Java, Le Poil, écrite par, comme il le disait, non pas Jean-René, mais Jean-Roger Cotimon. Et pourquoi cette chanson aujourd'hui? Eh bien parce que d'après le calendrier du Père Ubu, concocté par Alfred Jarry, nous sommes effectivement la Saint Poil. Et Poil, c'est le patron des mammifères terrestres. Alors, comme chaque semaine, j'ai cherché un peu pourquoi, sachant que selon le calendrier catholique et romain, nous sommes la sainte Tatiana. Quel lien pouvait-il y avoir entre, eh ben, c'était dur, entre Tatiana et le poil, c'était très dur à trouver, à part que il existe un collet à poil long qui s'appelle le collet de Tatiana. Mais alors, est-ce que Alfred Jarry avait un collet de Tatiana? Bon, ça restera un mystère, vous pouvez peut-être nous informer si vous en savez plus à propos de ce fameux collet de Tatiana. Toujours est-il que, pendant une heure, nous allons essayer de nous appesantir sur le sort du mammifère terrestre bipède quand il va sur sa faim particulièrement. Et que jusqu'à ce soir, surtout, eh bien, soignez vos poils et puis lustrez votre toison. Voilà, jusqu'à ce soir minuit, c'est le conseil du jour. Rubrique Alpha, la dernière heure de Caserio.
qu'avez-vous à dire, Caserio ?
Merci, merci.
C'est tout ? Voyons, ce merci, vous le dites dans un murmure.
Je suis parti déjà. Loin.
Voyez, je suis le directeur de cette prison, Saint-Joseph. Je ne fais pas partie de ceux qui vous ont jugé. Voulez-vous me dire quelque chose ? Quelque chose ? Quelque chose en particulier ? Nous vous avons servi un repas copieux hier. Vous a-t-il convenu ? En tout cas, j'ai constaté que vous avez tout mangé.
Oui. Merci, merci.
Tenez, voici Monsieur l'aumônier, accompagné du procureur et de votre avocat. Ils viennent s'entretenir avec vous. Avez-vous quelque chose à confier ? Vous avez tout bu aussi, des boissons que nous vous avons proposées.
Non, non, je ne vois rien que j'aurais à lui dire.
À l'aumônier, peut-être ? Un mot, une confidence ?
Non, non. Je ne vois rien que j'aurais à dire.
Ça se fait de prononcer un dernier mot, Caserio ? Ou du moins d'exprimer une dernière volonté ? Par exemple, tenez, le procureur s'est déplacé juste pour vous dans cette prison. Ce n'est pas habituel.
Le procureur ? Non, non. Je ne vois rien qui pourrait l'intéresser.
Alors, il y a mieux. Il y a votre avocat. Là, vous le reconnaissez ?
Monsieur l'avocat, je vous demande que mon corps ne soit pas livré à la faculté. Je veux que mon corps reste entier, même s'il manquera la tête. Mais la tête sera entre mes jambes. Après ma mort, j'aurai besoin de repos. J'aurai ma tête entre les jambes et ma mère pensera que je serai en croix.
Est-ce que vous êtes pâle, Caserio ? Vous savez, les gens n'ont pas compris pourquoi vous avez tué le président de la République. À l'automne, les feuilles des arbres tombent d'elles-mêmes. Pourquoi tirer dessus en plein mois de juin ? Les feuilles, quand elles tombent, finissent dans un court paso-doble et orchestré par le courant d'air, et puis aboutissent dans la boue du chemin, tout naturellement.
Non, cela ne se passe pas ainsi, monsieur le directeur.
Un petit verre de cordial pour vous remonter ?
Non, non. Je ne tiens pas à retrouver mes couleurs. Je veux me traîner jusqu'à la lame dans l'état où je suis. Dans l'état où m'a mis mon choix de mourir. Je suis décoloré. Cela me va bien, monsieur le directeur.
Vous n'avez pas peur d'être trop faible ? Prenez ce verre de rhum, vous me ferez plaisir, Caserio.
D'accord.
Avalez d'un coup.
Ah non, la cigarette, ce serait de trop. Merci.
Je ne sais pas. Les traits de ce criminel de 20 ans ne sont pas inintelligents. Plutôt apathique, nonchalant. Il a concentré une multitude de choses dans ses oreilles. Il n'a pas cet air prétentieux de ceux qui ont les veines qui battent sur leurs tempes jusqu'au dernier instant et les mâchoires serrées. Il faut pourtant qu'il ait été mû par une tendance criminelle. Mais quand j'observe ses yeux doux, sa grande bouche avec ses lèvres épaisses, il tremble. C'est toujours ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a renoncé à tout sentiment. Aurait-il une part du cerveau qui se serait atrophiée ? Sa carcasse géante s'est voûtée depuis son séjour ici. Il a tendance à la balancer à la façon des éléphants. J'ai l'impression que ses mains se sont multipliées, qu'il possède un nombre considérable de mains, et il les fait tomber comme les feuilles des arbres à l'automne, quand nous submerge cette vague de tristesse rouge qui envahit le pavé des villes, dont la richesse soudain s'estompe. Nous allons procéder à la toilette obligatoire. Caserio ne le prenait pas pour une humiliation. Ah, je vous présente Monsieur Debler, le bourreau. Vous savez, c'est le bourreau national. Il fait ça très bien.
Je sais. On l'appelle le sinistre archange à chapeau haut de forme, au chapeau haut de forme de la vengeance. Ah, je le reconnais bien. Il a déjà connu intimement Ravachol, Émile Henry, Vaillant... Combien d'autres, monsieur ? Combien d'autres, en toutes ces années de bons et loyaux services ? Vous êtes toujours là. Je vous en félicite.
Oui. Bon. Il va signer la levée d'écrou. Voilà, c'est écrit. L'an 1894, le 16 août, à 3h30 du matin, le nommé Caserio, Santo Hieronimo, a été remis aux mains de l'exécuteur des arrêts criminels en vertu d'une réquisition de M. le procureur général en date du 15 août 1894. Cela vous laisse indifférent, Caserio ? On dirait que vous tournez de l'œil ?
J'ai déjà passé la porte. C'était une porte capitonnée. Et maintenant, je suis dans la ouate. Je n'ai plus qu'à m'asseoir. C'est drôle, monsieur le directeur. C'est vrai qu'à ce moment-là, ce sont des images d'enfance qui s'imposent. On me l'avait dit, mais je n'y croyais pas.
Courage, mon enfant. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer.
Rubrique bêta. Comme chaque semaine hebdomadaire, chères auditrices et chers auditeurs, vous pouvez dès à présent décoller votre pavillon auditif de votre poste à galène et vous orienter, si vous en avez une, vers la fenêtre de chez vous, donnant sur ce ciel, ma foi pas tout à fait encore dégagé de notre bonne Mirlingue la brumeuse, et... avec quelque chance quand même, vous allez voir scintiller et approcher la navette spéciale de Mr. Holmes, de Mr. Milhouse et de Miss Cosmos.
Oh, bonjour, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette. Oui, on est venu cette semaine hebdomadaire avec Mr. Holmes, avec Mr. Milouche et moi-même, Miss Cosmos, pour vous parler de ce qui se passe en ce moment sur le fragment, disons un échantillon du fragment nippon, et qui est l'idylle du macaque et de la biche. L'idylle du macaque et de la biche. Et la biche, c'est pas l'auteur. Hein. Et il y a un truc qu'on ne vous a pas dit. Depuis qu'on vient hebdomadairement sur le météorite avec Mr. Holmes et Mr. Milouz. La nature, sur le météorite, aime bien rigoler. Voilà. Votre dicton sur le propre de l'homme, mammifère à poil, est tendancieux. Hein. Le propre de l'homme, c'est le rire. Eh bien, la nature aussi, dans son ensemble, par chez vous. On va spécialement aujourd'hui vous parler des rapports entre espèces. Ça se passe donc sur l'échantillon Yakushima, fragment nippon. Ah, ce qu'on a vu de notre constellation des pénates, au moins au moyen de notre télescope depuis la dernière semaine hebdomadaire. Il s'agit... Ah, comment il s'appelle cet animal, Mr. Holmes ? Ah oui, macaque. Il s'agit d'un macaque. Et oh, rafraîchissez-moi la mémoire un moment. Et un macaque est...
Et la biche.
Et d'une biche, ouais, c'est ça. Oh, pardon. Eh bien, ensemble, ils font saillie. Si, si, saillie. Si, si, saillie. Vous pouvez consulter la vidéo, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette. Ils font saillie, ces deux-là. Ils se fréquentent depuis plusieurs révolutions. Voilà. Peut-on parler de culture de la diversité ? Les macaques partagent leur vie avec les cerfs sika. D'abord pour des raisons d'alimentation. De leurs arbres, les macaques font tomber les fruits et les feuilles dont les cerfs se repaissent. N'est-ce pas, Mr. Milouz ? N'est-ce pas, Mr. Holmes ?
Je crois.
Et les singes, et puis les cerfs, ce sont leurs cacahuètes. Plus de tics sur la bestiole, quel bonheur pour le singe, et plus de démangeaisons pour le cerf. Et toutes ces protéines à l'œil. Hein ? Depuis ce contrat social, les deux espèces partagent leur jeu. À ce qu'on a vu depuis la dernière semaine hebdomadaire de notre constellation des pénates au moyen de notre télescope. Des séances de rodéo. Udia ! Vous voyez, ça force au rapprochement. La biche et le macaque s'en trouvent très satisfaits. Bon, il faut avouer que le zizi ne pénètre pas, mais il y a tout de même éjaculation. Puis la biche lèche la semence, encore un gain nutritif au passage. Et que du plaisir pour tout le monde. Il faut dire que chez les macaques, ce sont les dominants qui ont l'exclusivité des femelles. Alors, que faire des poussées hormonales, Mr. Hobbs ? Oh, vous allez parler de masturbation, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette. Ouais, ouais, toujours à dénigrer l'amour, hein, c'est une manie chez vous. Vous feriez mieux d'interroger vos bergers. Il y a des otaries qui tombent en pamoison pour des manchots royaux, qui ne sont pas manchots pour un sou. Bon, l'otarie finit par manger le manchot, mais c'est votre faute. Vous parlez de consommer l'acte, ils les prennent au mot. Tandis que le macaque est jaloux de sa biche Il ne la partage pas. Il monte même la garde auprès d'elle. C'est singulier. Allez, prenez exemple, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette. Vos ouvertures sont trop restreintes sur le météorite. Il suffit que l'un de vous s'y mette et les mœurs s'adoucissent. Les murs tombent. L'amour triomphe. Ah, bon, nous, ce qu'on en dit, hein, avec Mr. Milouz et avec Mr. Holmes, on ne connaît pas la frustration sur la constellation des pénates. Voilà, c'était juste pour vous signaler que bah, le macaque et la biche, bah, c'est pas une histoire impossible. Non, c'est plus que possible, c'est plus que parfait. Et, Mr. Milouz, on va essayer peut-être de faire redémarrer notre navette spéciale. Parce que voilà, bah, nous, on n'aime pas rester trop longtemps sur votre météorite. Vraiment, il y a un peu trop de frustration de jour en jour. Oh. Elle va marcher la navette spéciale. On va tenter. Et puis on tâchera de revenir la prochaine semaine hebdomadaire.
Sur ma potence, dans j'ai la guerre. Dans l'autre le tonnerre, je suis régime en 9-3. Comme une série d'éclairs. J'arrive du ciel, ils périssent à la chaîne. Puisqu'une seule arme est toi, rester, ce sera la mienne. Nati pour ma part, je connais la suite. On sonne ce soir.
On va mourir.
Kilimanjaro, Stone Love, Tony Mataron et la faucheuse
Cartel, accompagnez-nous dans cette victoire.
Soulevez nos deux corps enlacés s'envolent et retombe tous deux épanouis enivrés.
Je suis marqué au fer, c'est comme si je te chapais terre. Rassemble tes troupes pendant que je rassemble les foules. C'est comme si le monde était en feu, comme mon œuf 3 des boules. J'assure les arrières, pas de décrépitude. Mon rayonnement constant fortifie l'attitude. La reine se chie dessus, les MC se chie dessus. Mon rayonnement constant fortifie l'attitude. La reine se chie dessus, les MC se chie dessus.
Maintenant, j'ai les deux pieds dans l'arène maintenant. Jeune titan bipolaire, pareil pour la guerre et pire maintenant. Laisse du sang, des larmes et des ruines derrière nous. Grandiose depuis le début, transformé par la foule. Là-bas, ouais, je suis dans l'arène. Comme un dieu qui s'amène. Le ciel guide mes gestes, les enfers nous mènent. La force est calme et sereine, mon son règne. Domine, je suis un seigneur, je marche plus, je l'évite.
Pire qu'un gladiateur, dans l'arène nous sommes les...
vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus belle des radios. L'émission Les Petits Tas dans le Mou. On vous rappelle que nous fêtons aujourd'hui la Saint-Poil, patron des mammifères terrestres, et que donc nous vous engageons jusqu'à ce soir minuit, chères auditrices et chers auditeurs, à lustrer votre toison, ou celle des autres, pourquoi pas, si vous en avez l'occasion. Rubrique Gamma, prison de papier. Pourquoi tous ces livres chez toi, Gilles ? J'en vois disséminés dans toutes les pièces, sur les meubles, sur le piano et même par terre.
Mes amis me prennent pour un grand lecteur. Ils m'en envoient même par la poste.
Il y en a des petits, des moyens, des gros. Il t'en vient souvent, des arrivages?
Ne m'en parle pas. Il y en a des complexes. Je jauge à chaque fois l'effort que chacun va exiger, le temps qu'il va me prendre.
Comment choisis-tu l'ordre de lecture ?
Je privilégie celui qui reste bien sage sur mes genoux. Enfin, je préfère ceux qui demandent encore l'usage du coupe-papier. Regarde, il n'est pas chouette, mon coupe-papier en corne ?
Comment tu procèdes ?
Ah, toujours de la même façon. Je le tiens verticalement comme cela. Et je sépare le haut des quatre pages attachées l'une à l'autre deux par deux. Puis, j'abaisse l'instrument, je le redresse, afin qu'il se glisse entre les deux pages qui ne sont plus réunies par le côté. Après, il me reste les pages faciles. Leur flanc est ouvert, elles ne demandent qu'à être séparées par le haut. Après, reviendront quatre pages difficiles, qu'il s'agit de ne pas érafler. Puis, quatre pages faciles. Puis quatre difficiles. Et ainsi de suite. Je vais de plus en plus vite à mesure que l'ouvrage avance.
C'est fatigant ce dépucelage, non ?
À la fin, en effet. Ma tête bourdonne, j'ai comme un léger tournis.
Tu ne t'arrêtes pas un moment. Cette activité n'est pas la plus intéressante dans la littérature. Tu pourrais, par exemple, découper les pages au fil de ta lecture. Ce serait une opération machinale, rythmant l'histoire en train de se faire sous tes yeux.
Ça ne va pas, non ? Je ne t'ai pas exposé les variantes, car il y en a. Pour égayer un peu ce travail. On peut s'en prendre uniquement aux pages difficiles, puis revenir plus tard sur les faciles. Les faciles, dans ce cas-là, sont comme un dessert. Parfois, je commence par les faciles et je termine par les difficiles. J'aime aussi procéder par groupe de pages dont je varie l'épaisseur. Par exemple, trois feuillets où les difficiles et les faciles vont alterner. Ensuite, mettons que je m'en prendrai à toutes les faciles qui suivent ce premier lot.
Mais Gilles, c'est une vraie galère.
Le pire est que j'y embarque volontiers.
Et lorsque toutes les pages sont découpées ?
C'est marrant, parce qu'alors le livre paraît plus gros. Comme gonflé par mon opération. Quand j'en suis là, je place l'ouvrage sous le presse-papier pour qu'il s'égalise.
Et après ?
Après, je le range à l'endroit convenu dans la bibliothèque ou quelque part ailleurs s'il n'y a plus de place. Et je passe au suivant.
Tu es comme le prisonnier qui effectue des milliers de pas dans sa cellule sans que son cheminement ne le mène quelque part.
Sauf que ce n'est pas un monde de béton, mais un monde de papier. Il y a effectivement quelque chose de désespérant dans cette activité compulsive, quelque chose d'inhumain dans la littérature, quelque chose de rétréci sans aucun lendemain.
Et tu fais des pauses, ne serait-ce que pour manger.
Mon coupe-papier me désaltère.
Je sens une grande solitude dans tes propos, comme si tu te refusais à voir le soleil.
Les ombres surtout, Combor. Combor, je me refuse à voir les ombres.
Et lorsque tu as une petite amie...
Elle s'en va, l'infidèle. Je n'en ai pas rencontré une qui accepte d'être l'esclave de ce vivant mort-né qui coupe et qui tranche à longueur de journée.
Tu tournes. Est-ce que tu tourneras toujours, Gilles ?
Non. Un jour, je serai comme un animal blessé et on entendra ma plainte. C'est alors que je renoncerai à cette tâche harassante de cisailler les livres. Je m'assiérai par terre. Mais, Combor, est-ce moi qui te rends si triste ? Il n'y a pas à être triste. Je ne mène pas une vie de chien. Ce serait une grave erreur d'appréciation. Je suis un homme au même titre que toi.
Sauf que tu t'es emprisonné.
Non. On m'a condamné à répéter ces gestes. On m'a dit que la liberté se trouvait dans les livres. Je l'ai pris pour argent comptant.
Mais qui es-tu vraiment ? Es-tu quelqu'un ?
Bien sûr. Si tu t'observais avec attention, tu verrais, affolé, toutes les choses que tu répètes invariablement et qui sont devenues ton quotidien à tes dépens.
Et voici venir notre ultime rubrique, la rubrique bah, Yaka. Aujourd'hui, deux priorités, chères auditrices et chers auditeurs. Une amélioration du sort des défunts et un marché du jouet offensif.
Cher ami, Vous êtes-vous parfois interrogé sur le fait qu'il n'y ait que des boutiques de fleuristes à proximité des cimetières ?
Mais voyons, Père Niccolo Sporgersi,
c'est parce que nous ornons nos tombes de végétaux, pardi.
Bien vu. Mais toutes les civilisations ne procèdent pas ainsi. Pourquoi détourner les yeux et le chiffre d'affaires des cultures exogènes ?
Qu'imaginez-vous là ?
Eh bien, Florian, je me suis intéressé aux diverses cultes funéraires qu'on rencontre sur notre territoire cosmopolite. Mon attention s'est arrêtée sur une singulière pratique tzigane. Estimée à 7h, 13h47, à 700 000 représentants sur notre sol.
Je me suis laissé dire que les tziganes étaient particulièrement généreux vis-à-vis de leurs défunts.
En effet, le mort a le droit de disposer de ses bijoux, ses instruments, ses objets intimes dans sa sépulture. Ceci n'est pas le détail le plus intéressant pour notre affaire. Ce qui m'a inspiré avant tout, c'est la prodigalité concernant les boissons alcoolisées et toutes les fantaisies que la personne disparue peut encore se permettre 6 pieds sous terre.
Ah oui ! J'ai entendu parler des flots de vodka et des cigarettes à l'unité qu'on éparpille autour de la dépouille, afin que le temps ne lui paraisse pas trop long.
Mon cher Florian,
oui,
ne gagnerions-nous pas à prendre exemple sur cette auguste tradition, plutôt que de laisser nos êtres aimés se morfondre dans une solitude morbide ? Dites-moi, qu'ont-ils à faire des racines qui viendront chatouiller leurs fosses nasales ?
Oh, je me le demande.
L'opération boutique funéraire incitera, on peut l'espérer, nos concitoyens à améliorer le train de vie de leurs macabées.
Oh, votre idée fera sans doute des petits, Père Niccolo Sporgersi, car je soupçonne que les familles trouveront une consolation en chinant dans les rayons. Remontants en tout genre, nicotine et autres substances bientôt légalisées pour leur consolation. Je promets un avenir radieux à votre projet.
Figurez-vous, Florian, que certains fleuristes mortuaires m'ont déjà contacté pour une reconversion. J'ai fixé la date d'ouverture de ma première boutique avant le prochain 1er novembre. Ce sera, je vous le garantis, la régalade de l'année.
Titubé à travers les tombes, en les arrosant à profusion de produits euphorisants. Oh, n'est-ce pas une façon parfaite de faire son deuil ?
Rendons grâce aux tziganes de nous inculquer les bonnes manières. Le mort n'aura plus l'occasion de s'accouder au comptoir, mais il sera amplement dédouané.
Une opération chirurgicale sur le chagrin. Oh, vous avez le sens de la technique, Père Niccolo Sporgersi.
Notre société est un organisme défaillant. Elle appelle à des améliorations radicales pour un mieux-être, comme on dit. Si vous songez aux enfants, à leurs héros, aux figures charismatiques qui les bercent et les rassurent, elles finissent toujours dans le commerce, n'est-ce pas ?
Que ces personnalités soient craintes ou adulées, les enfants les réclament dans les rayons ou sur les cartes de Pokémon.
De mon temps, c'était les panoplies. Comme si la puissance du personnage pouvait être transférée dans notre propre corps. Bien. Vous remarquerez, mon petit Florian, que les guerriers ont plus de succès que les stars et les gentils.
Bah, si j'habitais le Chiapas, c'est sûr que je réclamerais un zapatiste.
si vous poursuivriez l'insurrection qui n'a pas abouti.
Oui, avec mon petit jouet. Hey, mais certains parents pensent que les soldats en jouets, ou même la guerre dans les tablettes, développent l'agressivité chez leurs enfants.
Eh bien, je réponds que les figures de plomb n'ont jamais créé de vocation militaire et que les armes à bouchons n'ont pas multiplié les meurtres. Le marché du jouet n'est pas pacifique. Regardez, que fait le gamin de ses jolies voitures, de ses ours en peluche préférés et même de ses bandes dessinées ? Sera-t-il plus tard un adepte du carambolage, de l'amputation, du viol, de l'énucléation et du vandalisme? Laissez-moi rire.
Vous rencontrez l'opinion des pédiatres qui ont créé le concept d'objet transitionnel.
D'ailleurs, les parents dont vous parliez accepte l'agressivité qui régit ce monde en réduction, peuplé de catastrophes, cela au sein même de leur foyer.
Dites, vous allez reprendre la main sur le marché du jouet, Père Niccolò Sporgersi ?
Oui, et l'état d'urgence m'y incite. Un djihadiste, un zadiste, le casseur et sa cagoule. Le succès sera plus phénoménal qu'avec mes anciens CRS ou bien le pompier qui m'a pris tant de temps avec sa tenue et son équipement.
Vous allez jouer sur l'attraction de la peur.
Dans la peur, il y a une bonne dose d'admiration. Nos chers petits qui manipuleront à leur guise ceux qui en viennent aux armes et aux coups, pour des causes mystérieuses, aura droit à un plaisir bien plus subtil que celui qui s'incarne dans les défenseurs de l'ordre et de la sécurité publique. J'en prends le pari.
Ne craignez-vous pas les procès, Père Niccolò Sporgersi?
Je les souhaite, je les espère, Florian. Si nous agissions dans l'illégalité, je vous garantis que nos profits n'en feraient que s'accroître. Songez à d'autres produits qui circulent sous le manteau.
Ce n'est pas faux. Je ne prendrai jamais votre génie en défaut, hein, Père Niccolò Sporgersi.
Merci, merci.
c'était le groupe L'Attirail, la dernière cigarette. Ceci pour conclure donc notre émission qui vous engage, on vous le rappelle, jusqu'à minuit ce soir à lustrer votre toison ou celle d'un ou d'une autre, si vous en avez l'occasion, jusqu'à ce soir minuit, c'est le moment ou jamais de vouer votre culte au poil. Bah, parce que nous sommes la Saint-Poil, tout simplement, et être à poil, même par cette froidure, bon, bah, ça peut avoir des avantages. Enfin, à vous de voir. Hein. On va vous laisser maintenant avec la bande continue, les bandes passantes de Radio Canu, la plus belle des radios. Ce jusqu'à 17h, vous retrouverez l'émission Intrinsèque, les musicalités gaulo-gauloises, cul par-dessus tête. À 18h, c'est les paysans et paysannes dans la lutte des classes. Et à 19h, comme chaque jour de la semaine hebdomadaire, le journal de Radio Canu. Pour nous, si tout se passe bien, on se retrouve la prochaine semaine à la même heure. Vous avez mis l'antenne, hop, votre poste à galène tout à l'heure, c'est-à-dire à 13h, pour la Sainte Asperge. Et la Sainte Asperge, ça suit bien l'émission d'aujourd'hui, puisque c'est la patronne des aphrodisiaques. Tout un programme. Allez, lustrez vos poils maintenant.